Bonjour.
Vous êtes en pleine promo pour votre dernier livre, vous enchaînez les interviews, comment allez-vous?
Je vais mieux que le monde, si c'est ça la question, oui. À titre personnel, je peux me satisfaire d'une position où je suis interrogé sur ce qui se produit sans, hélas, pouvoir toujours agir autant que je le voudrais sur le destin de l'humanité. Mais c'est le sort de tous les anciens présidents.
Vous sortez ce livre, « Leur Europe expliquée aux jeunes et moins jeunes », c'est chez Glénat Jeunesse. Pourquoi ce sujet-là et pourquoi ce public-là aussi?
Et pourquoi cette question-là? L'Europe, parce qu'il y a des élections dans quelques semaines pour le Parlement européen. Et nous savons que la question, au moins en France, mais pas simplement en France, c'est la participation. Est-ce que les citoyennes, les citoyens vont venir voter pour ce qui est pourtant leur environnement quotidien? L'Europe, c'est la monnaie, c'est la libre circulation, c'est l'agriculture, c'est les accords commerciaux, c'est tout ce qui nous contraint quelquefois, mais nous ouvre aussi. Et puis pourquoi les jeunes? Parce que ce sont souvent ceux qui sont le plus détachés de ce qu'est la construction européenne, alors même qu'ils sont les plus concernés. Quelle va être la politique en matière de climat? Quelle va être la politique de défense de l'Europe, qui pour l'instant, elle n'en a pas. Donc elle va forcément se poser cette question dans les années qui viennent. Et pourquoi les enfants même? Parce que je considère que souvent, ce sont les enfants qui posent les bonnes questions. Comment on en est arrivé là, hein, que
ça vous plaît ce rôle de professeur, ce rôle didactique?
Oui, parce que je pense que ceux qui ont exercé des responsabilités importantes, ils ont un devoir qui est de transmettre, qui est finalement de donner leur expérience à ceux qui ne l'auront sans doute jamais. Il y a très peu de personnes qui peuvent accéder à la fonction présidentielle en France. Donc moi j'ai vécu des événements, j'ai vécu des institutions et je peux témoigner de ce qu'elles font ou de ce qu'elles ne font pas. Et c'est pour ça que la collection Glénat, et je pense que c'est une très bonne approche, c'est ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc j'essaye chaque fois que je développe finalement des descriptions sur des institutions ou sur des compétences, de dire ce qui va et ce qui ne va pas en Europe.
Alors évidemment, c'est l'occasion de parler de l'Union européenne aujourd'hui. Elle a bien changé depuis votre mandat. Elle a traversé le Covid. Aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine. Ce sont les menaces russes. Les 27, ils ont tout récemment annoncé qu'ils allaient renforcer l'industrie de la défense sur le sol européen. Ça vous inspire quoi, ça?
L'Europe, elle réagit plutôt bien aux crises. Son problème, c'est d'avoir toujours du retard.
Il vaudrait mieux les anticiper.
Exactement, de les prévenir quand c'est possible, ou en tout cas de les prévoir autant qu'il est nécessaire. Et ça conduit sans doute à aujourd'hui imaginer des politiques qu'on n'avait pas à l'esprit quand l'Europe s'est fondée ou quand même quand elle s'est élargie. Par exemple, la question de la sécurité, de la défense, c'était pas à l'ordre du jour. Il y avait une alliance atlantique pour ça. Donc aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui se sent investie d'une mission. Et vous évoquiez la relation avec l'Ukraine, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec l'Ukraine? Est-ce qu'on doit la faire entrer dans l'Union européenne? Oui. Et est-ce qu'on doit l'aider, surtout si les États-Unis ne l'aident plus suite d'une élection présidentielle qui va avoir lieu à la fin de l'année? Et donc l'Europe, elle est obligée, si elle veut avancer, de s'adapter aux situations qui viennent parfois l'interpeller, parfois la fracasser. Une invasion d'un pays voisin, c'est quand même une situation qu'on n'avait pas forcément à l'esprit quand on a fait l'Europe de ces dernières années. Au contraire, on faisait l'Europe pour la paix.
Et donc aujourd'hui, là, c'est une bonne chose d'être moins dépendant aussi du partenaire américain?
Oui, mais tous les pays ne sont pas forcément convaincus de cette nécessité d'autonomie. Et puis ça va beaucoup aussi dépendre du partenaire américain. Est-ce que lui-même veut s'engager autant qu'il l'a fait jusqu'à présent pour la défense du continent? Il est clair que Joe Biden, oui, s'il était réélu, le ferait. Mais est-ce que si c'est Trump, il aura la même attitude? Sûrement pas. Donc il y aura une question majeure pour les Européens, qui, notamment nos amis allemands, qui pensaient que pour toujours ils auraient ce qu'on appelait le parapluie ou le bouclier américain. Ben non, il est possible maintenant qu'on soit conduit à nous déterminer nous-mêmes, ce qui est peut-être un progrès pour l'Europe. Si on veut être une puissance politique, il faut avoir les conditions de la puissance, c'est-à-dire une défense.
Autre sujet qui touche à l'Europe, c'est l'extrême droite. On le sait, elle est au pouvoir dans plusieurs pays aujourd'hui. On sait que l'extrême droite ne déborde pas d'enthousiasme vis-à-vis de la machine européenne. C'est une menace interne, ça, pour l'Union européenne?
Le fait nouveau, c'est que l'extrême droite, en France et en Europe, ne veut plus sortir de l'Union européenne. Elle a compris que ce serait très difficile à expliquer au peuple, même ceux qui ne sont pas les plus convaincus de ce qu'est le fonctionnement de l'Europe, de ne plus avoir la monnaie unique, de ne plus avoir un grand marché, de ne plus pouvoir circuler. Donc les extrêmes droites, elles ont une autre stratégie maintenant, c'est d'accepter l'Europe, mais de la bloquer, de lui permettre finalement de faire ce qui est nécessaire, l'économie, mais de ne plus lui donner les moyens d'une intégration dans un certain nombre de domaines. J'évoquais la défense, mais aussi l'écologie ou la lutte contre le réchauffement climatique. Bref, de priver l'Europe de ses moyens d'agir.
Et c'est un danger, ça?
Et donc, je pense que c'est un danger. Le danger n'est plus, comme on l'avait imaginé après le Brexit, un éclatement de l'Europe, qu'il y ait des pays qui disent bah « Non, nous voulons aussi suivre l'exemple du Royaume-Uni. Bah, » Justement, c'était un contre-exemple. Donc, plus personne ne veut sortir. Ouais. Pas même la Hongrie, la Slovaquie, qui sont sur des positions qui sont très éloignées des nôtres. Mais ces pays-là, comme d'autres, l'Italie, ils sont bien contents d'avoir l'Europe pour avoir les fonds européens et pour avoir le grand marché européen et pour avoir la capacité de nous donner leurs produits sans qu'ils soient pour le moins gênés de ne pas respecter les valeurs de l'Europe.
Un mot de la France aussi, bien sûr, et du socialisme en France. Comment elle va, cette gauche française qu'on entend assez peu, finalement? Est-ce qu'on vous dit parfois « François revient » ?
Ah oui, ça peut arriver. Mais la question n'est pas aujourd'hui posée. Pourquoi ? La gauche française, qui a longtemps été motrice en Europe, avec François Mitterrand, Lionel Jospin, puis ensuite avec mon élection, cette gauche s'est non seulement désunie, mais c'est porté sur un pôle de radicalité qui ne permet plus d'accéder au pouvoir. Et ce qui faisait la magie, d'une certaine façon, de la gauche en France, c'est qu'elle était conduite par un parti socialiste qui était certes dominant, hégémonique, disait-on, mais qui, par sa force, permettait à toute la gauche de pouvoir espérer une victoire. Ben, c'est ce qu'il faut absolument reconstruire, c'est-à-dire que c'est en train de se faire avec les élections européennes, et j'espère après les élections européennes, c'est-à-dire de reconstituer une force socialiste, social-démocrate, réformiste, peu importe les termes, qui sera devenue plus forte et ainsi qui pourra emmener toute la gauche. Et nous avons aujourd'hui cette opportunité, puisque maintenant Emmanuel Macron ne sera plus candidat à sa propre succession, son parti n'a jamais existé vraiment, donc le gouvernement va plus à droite, donc il y a des électeurs qui reviennent, et puis Jean-Luc Mélenchon s'est lui-même mis dans une position marginale de radicalité outrancière, ce qui fait que c'est au tour maintenant de cette idée.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un candidat pour vous, potentiel, solide aussi, qui puisse mener cette gauche ?
Oui, il existe ou elle existe. J'ai pas de doute sur la personne ou sur les personnes. En revanche, la condition première, la condition préalable, c'est de reconstituer la force. La gauche, c'est pas un recours, c'est pas une personne qui surgit, c'est pas dans les traditions de ce qu'est la gauche républicaine. Non, c'est une force qui est capable, par ses idées, par son lien avec le pays, par son réseau sur le territoire, et ensuite par une incarnation, de donner une espérance.
Vous avez envie parfois d'aller remettre le pied là-dedans, vous ?
Mais j'ai toujours, même pas un pied, mais les deux pieds dans cette France que je parcours par les livres ou par toutes les rencontres que je peux avoir. Et j'ai toujours gardé les mêmes idées, les mêmes engagements. Et j'essaye de comprendre ce qui est en train de se produire, pas simplement en France, hein, cette peur qui surgit, qui peut produire finalement le pire, c'est-à-dire des nations qui jusqu'à présent étaient ouvertes, qui se referment brutalement.
Mais alors les deux pieds, oui, mais est-ce qu'on irait s'immerger complètement, François Hollande ? Est-ce qu'on pourrait reprendre finalement un rôle actif au sein de la politique française aujourd'hui ?
Mon rôle, c'est à la fois de rappeler ce que j'ai fait, parce que je crois qu'il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas de retour sur l'histoire, mais c'est aussi de donner mes idées, de donner matière à réflexion, de donner à comprendre. Oui, ça je le fais, je serai toujours un citoyen engagé. Alors j'ai toujours la même question en France, chaque fois que vous avancez, même pas un pied, mais un pouce, un orteil, on vous dit « alors vous êtes forcément candidat ». Et je réponds « mais moi j'ai déjà été président, donc je suis beaucoup plus à l'aise que beaucoup d'autres ».
D'ailleurs, cette étiquette d'ancien président, aujourd'hui vous la vivez comment ? C'est plutôt un costume à paillettes ou un poids ?
C'est quand même une responsabilité. J'ai dirigé la France, donc je dois chaque fois non seulement rendre compte de ce que j'ai fait, mais être conscient que ma parole n'est pas une parole comme les autres. Et c'est aussi une responsabilité parce que j'ai envie de dire à d'autres, non, il faut continuer, il ne faut pas laisser. Il ne faut pas être fataliste parce qu'il y a une poussée des extrêmes droites de penser que ça serait leur tour. Non, ce n'est pas, ça ne sera jamais le tour de l'extrême droite, à condition qu'on offre une espérance. Ce n'est pas simplement en dénonçant l'extrême droite qu'on l'empêchera de venir. C'est en donnant aux citoyens, où qu'ils soient, une espèce d'envie de venir voter pour un projet, pas simplement contre une. Un risque ou un danger.
Oui, je me dis que quand on devient président, on doit inévitablement faire des compromis, hein, mettre un peu ses idéaux à l'épreuve du réel. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir pris la distance avec le pouvoir exécutif, vous avez renoué avec ces idéaux?
Oui, mais je ne les avais pas perdus. C'est vrai que c'est, après, au pouvoir, un rapport avec la réalité. Parlons d'Europe. Pour faire bouger l'Europe, même une volonté dans un grand pays comme la France, avec un président qui s'est engagé, ça ne suffit pas. Il faut convaincre les autres. Ça s'appelle le compromis. Et ça, c'est ce qu'il faut expliquer, notamment aux plus jeunes, c'est que les idéaux sont absolument indispensables pour porter une candidature et ensuite, éventuellement, fabriquer une victoire. Mais après, il faut savoir faire des compromis. Sinon, l'intransigeance ne conduit nulle part. Et l'oubli des engagements est à ce moment-là un risque pour la démocratie. Donc il faut faire des compromis. La vie politique est faite de compromis, mais un compromis n'est pas une compromission. Il faut savoir jusqu'où aller sans jamais abandonner ses idées.
J'ai souri en ouvrant votre livre parce que dans votre introduction, vous écrivez, j'ai voulu écrire ce livre parce que l'anaphore, on ouais. se souvient évidemment hein, de moi président de la République, l'anaphore c'est devenu un peu votre figure de style préférée, votre marque de fabrique.
Oui, parce que l'anaphore ça signifie qu'il n'y a pas une seule idée, pas un seul argument. Donc c'est pas une répétition l'anaphore, c'est une accumulation. Voilà, on s'engage non seulement pour une idée, mais on s'engage pour plein de raisons. Et c'est toutes les raisons qui justifient le mouvement. Donc le livre, je ne l'ai pas fait simplement parce que j'étais convaincu que l'Europe, c'était bien. Non, j'ai fait un livre pour précisément expliquer comment ça fonctionne. Je l'ai fait pour les jeunes parce que je considère que c'est eux qui ont, pour une part, la clé. Et je l'ai fait parce que l'Europe ne va pas bien. Alors même que dans la crise, elle a plutôt bien réagi. Aussi bien la crise sanitaire que pour la crise ukrainienne. Mais je vois bien qu'elle peut non pas se disloquer comme on craignait il y a encore quelques années, mais se dissoudre progressivement. C'est-à-dire ne pas avoir de projets suffisamment mobilisateurs pour emporter les opinions publiques.
Voilà, et ce livre vient comme une petite pierre à l'édifice en question. Merci beaucoup.
Merci à vous.
François Hollande d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bonne journée.
À vous aussi.